Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et peut-être, tiens, avant de se lancer dans le menu de l'émission, comme on le fait régulièrement, je fais une petite parenthèse. Ben, pourquoi? Parce que l'organisation du 49e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a annoncé les titres sélectionnés dans sa compétition officielle. 83 albums qui ont été retenus sur cette sélection. Et là-dessus, ben, on est toujours bien content quand on peut vous dire ben, il y a des Québécois. Et cette année, ben, sur les 83 titres, eh ben, il y en a 3 albums édités au Québec ou le fait d'auteurs québécois qui s'y retrouvent. Et notamment dans les sélections officielles, c'est les éditions Pawpaw, donc qui y font leur entrée par le biais de leur album L'Ermite maudit, donc le tome 2 des Mystères de Uptown. Pour les habitués d'Angoulême, ben, on se rappelle que le premier tome, donc le Code des hommes disparus, s'était retrouvé dans la sélection Fauve. Alors maintenant, progression, donc on est dans la sélection officielle avec ce deuxième tome, une sélection très méritée, vous le savez, c'est un album qui figure dans mes coups de cœur de l'année dernière. Et faites-vous plaisir, ben, lisez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Autre titre qui s'y retrouve, c'est dans une nouvelle sélection, le Fauve Écho, donc Raja. C'est Mégantic, un train dans la nuit, d'Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel chez Éco-Société. Un album dont on vous avait parlé d'ailleurs avec force de détail au tout début de la saison. Si vous n'avez pas regardé, écouté l'épisode, ben, on y consacre une belle heure pour creuser un peu ce riche album, riche dans le propos et riche aussi dans la recherche visuelle. Donc, une sélection encore là qui est largement mérité par Kennel et Saint-Cerny. Et autre petit clin d'œil, donc c'est du côté de la sélection Patrimoine, donc la réédition de plusieurs œuvres de Julie Doucet chez l'association, donc le Maxiplot, donc pour ceux qui veulent plonger dans l'univers de cette autrice majeure de la bande dessinée québécoise. On rappelle d'ailleurs qu'elle a reçu le prix hommage des BDistes Causa un peu plus tôt cette année, donc un peu dans la foulée aussi de la publication de cet album. Alors, ben, c'est une belle occasion de plonger justement dans ce que Doucet a pu offrir au fil de son illustre carrière. Alors, donc voilà pour ces clins d'œil. Et ben, en ce qui concerne le menu de cette semaine, on va aller dans 2 sujets différents. On va profiter du passage au Québec d'un auteur belge, Pierre Lecrenier, pour parler avec lui principalement du garçon au visage disparu. Un album qu'il a dessiné et adapté en collaboration avec Larry Tremblay d'une pièce de théâtre de ce dernier. Alors, on va y consacrer la première partie et un peu plus de l'émission. Et en deuxième moitié, ben, on va aller jaser BD québécoise et son évolution au fil des 21 dernières années en route vers une prochaine rencontre des rendez-vous de la BD en compagnie de Michel Giguère. Alors, voilà pour cette semaine. À la vie en BD. Alors, toujours dans le cadre de La Vie en BD, on profite maintenant du passage au Québec du dessinateur belge Pierre Lecrenier. Mais pour faire un peu de rattrapage, parce qu'il y avait un album qui est arrivé du côté des éditions de La Bagnole, Ken du côté européen, qui s'appelle Le garçon au visage disparu. C'est un album de Larry Tremblay et de Pierre Lecrenier. On ne vous en avait pas parlé, mais là, on peut se rattraper. On profite donc d'un voyage pour le faire. Pierre Lecrenier, bonjour.
Bonjour.
Alors, bien, d'entrée de jeu, en fait, on parle d'une collaboration belge-Québec, dans le fond, avec cet album-là. Une collaboration qui est née essentiellement d'un passage de votre côté, de ton côté, du côté du Festival BD de Montréal. Dans le fond.
Voilà. Ben, donc, on était invité, je pense qu'il y a 4 ans déjà. Et donc là, on présentait, donc j'étais invité pour présenter Le Belge, qui était une série, donc je pense qu'on était déjà sur le 3e tome, ou 4e même peut-être. Et en parallèle de ça, je présentais mon travail pour la revue dessinée, parce qu'ils faisaient des tables rondes pendant le festival autour de la BD de reportage, voilà. Et donc Larry Tremblay était de passage, et puis... puis voilà, en discutant, il a vu mon travail, puis on a bu une bière, et puis on a sympathisé, et puis il m'a rappelé, je pense même un mois et demi après. En fait, on a parlé aussi parce qu'il travaillait déjà pour... il avait fait une première BD avec Guillaume Perrault, et donc moi j'aimais beaucoup cette BD, c'était même pas vrai. Et donc, et du coup, j'ai parlé de BD, j'ai parlé de cette BD-là, et voilà, il m'a dit, ah mais oui, c'était une chouette expérience. Et donc, un mois et demi après, il m'a rappelé pour me proposer un autre type de BD. Et voilà, moi je me suis dit, ah, c'est vraiment l'occasion de travailler en plus avec quelqu'un, avec un Canadien. Enfin voilà, il y a aussi tout le. Enfin, j'aimais bien Montréal. Voilà, il y a tout le côté un peu aventure de travailler avec quelqu'un d'un peu plus loin. Et donc voilà.
Puis dans le fond, les BD, tu l'as dit, dans le fond, que tu avais fait auparavant, c'était les trois Belges. Maintenant, en
Ouais.
fait, c'est quatre tomes, au bout du compte, que tu as fait avec Edgar Cosma, dans un style qui est plus, enfin, plus ligne, plus
Ouais.
épuré, si on peut dire. Et j'ai l'impression que quand on compare, et si les gens qui nous écoutent font l'exercice de comparer ce que tu as fait sur le Belge et ce que tu as fait dans Le garçon au visage disparu, j'ai l'impression, et le premier élément qui frappe, c'est qu'on a l'impression que Pierre Lecrenier s'est vraiment développé un style adapté aux
Ouais.
besoins, aux réalités, aux récits du garçon au visage disparu.
Oui, ben en fait, donc j'expliquais ça hier d'ailleurs, parce qu'on voyait des étudiants en art. Et bah souvent, enfin pas souvent, mais il y a pas mal de d'auteurs BD qui ont un style et on va les chercher pour leur style. Après, j'aimerais bien aussi avoir ça, mais je ne peux pas m'empêcher, j'ai un peu de mal avec la routine. Et donc du coup, moi, c'est un nouveau projet, c'est l'occasion de trouver un autre univers, une autre, tester d'autres choses. Et donc là, ben, donc le Belge, c'était plutôt, si pas humoristique, en tout cas des petits billets d'humeur, voilà. C'était plutôt minimaliste, comme ça, comme trait. Et ici, ben, on est vraiment dans du fantastique, un peu horreur parfois. Donc, mais ça me donnait l'occasion d'essayer tout à fait autre chose. Et voilà. Moi, à chaque fois, c'est un peu ça qui me. C'est un peu le petit challenge, comme ça, de partir sur une autre aventure. Voilà.
Oui,
Qui me.
en fait, le dessin, le trait, les choix qu'on fait sur les textures,
Ouais.
ça a un impact qui est net sur le développement narratif, dans le fond,
Ouais.
et dans le cas du garçon visage disparu, autant que dans le cas de n'importe quel autre album,
Ouais.
dessiné dans un autre style, ça change complètement les choses. Et en même temps, j'ai l'impression que dans le cas du garçon visage disparu, tu parlais d'un côté horrifique, mais le dessin n'est pas, lui, dans le registre
Non,
horrifique.
non,
On est plus dans le registre émotif, poétique.
ouais.
Et j'ai l'impression que ça fonctionnerait différemment si tu avais été dans un style, par exemple, plus réaliste, où l'horreur aurait été mise de l'avant plutôt que la
Ouais.
poésie du récit, par exemple.
Non, non, c'est plutôt poétique. Mais d'ailleurs, on a beaucoup parlé de ça avec Larry. Et donc, au début, j'ai démarré avec ce que je faisais avant parce qu'il avait vu ce que je faisais dans le Belge et pour la revue dessinée, donc c'est tout à fait différent. Mais donc, j'étais quand même parti là-dessus. Puis tout de suite, on s'est dit non, mais il faut autre chose. Et donc, moi, j'avais déjà lu la pièce. Et c'est vrai qu'il passe. Enfin, moi, je trouve qu'en général, ce que Larry fait, c'est quand même assez poétique. Après, il joue sur plein de registres différents. C'est ça qui fonctionne bien aussi. Donc, on passe de l'humour à l'horreur. C'est des choses qu'on n'a pas tellement. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus canadien, ce côté-là, le fait de mélanger les codes comme ça. Et donc, du coup, il fallait trouver quelque chose qui permettent vraiment de donner de l'émotion au personnage, ce que je faisais pas avant parce qu'ils étaient trop loin, on voyait pas les expressions, les yeux. Donc ici, il fallait que je fasse des gros plans. Et puis bon, dans les textures, enfin, ce qu'il y a dans la BD, on passe tout le temps de passages plus comiques, presque, à des passages durs. Donc du coup, bah, il fallait un code, donc j'ai joué sur la couleur. Donc quand on est dans des passages plus comiques, plus joyeux, on est dans du bleu, jaune, vert, voilà. Et puis quand on bascule du côté de l'horreur, on est dans du rouge, noir, voilà.
Et là, je vais faire un petit pas en arrière,
Ouais.
en fait, parce que je pense qu'on va établir un peu c'est quoi justement le garçon visage disparu.
Ouais.
Essentiellement, on parle d'horreur, on parle de zombies. C'est un garçon qui aime beaucoup ce type d'univers-là et qui est dans l'adolescence, qui est en crise d'identité, parce qu'au bout du compte, c'est une quête de soi qui devient, qui prend un peu des a priori fantastiques, parce qu'à un moment donné, il va le perdre pour vrai, son visage est en crise d'identité jusqu'au point où il finit par perdre la
Ouais.
sienne, dans le fond.
Oui, c'est ça, c'est une allégorie quelque part de l'adolescence et peut-être pas la perte d'identité, mais justement de la recherche d'une identité. Et donc on est toujours comme ça, entre le réel et... On sait jamais vraiment quand c'est tout à fait réel ou quand c'est dans la tête du personnage. Et c'est vraiment ça que je trouvais intéressant, moi, dans son histoire. Même parfois en discutant avec des personnes qui l'ont lu, il me posait des questions pour savoir mais qu'est-ce qui est vraiment vrai, etc. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on donne pas tout, on donne pas vraiment la réponse. Je pense que c'est vraiment l'allégorie de l'adolescence quand on a rien tout à fait tangible. Et voilà. Donc pour certains, c'est difficile. Enfin, c'était vraiment, je pense que c'est vraiment ça, quoi, le fond de l'histoire.
Ouais. Et au départ, c'était une pièce de théâtre, en fait, que fait Larry Tremblay. Deux éléments que j'aurais tendance par rapport à faire ressortir par rapport à ça. La première question que je te demanderais, c'est, dans le fond, la pièce de théâtre comme telle, de mémoire, c'était beaucoup un texte de dialogue, il n'y a pas tant d'indications, il n'y a pas tant de lieux. Donc, j'imagine que c'est une matière première autour de laquelle il y a beaucoup à construire.
Ouais. En plus, moi, j'ai vraiment pas l'habitude avec le texte. Enfin, avant cette BD-là, je travaillais très peu avec du texte, enfin des bulles. En général, même j'ai fait beaucoup de BD qui étaient carrément muettes. Donc là, c'était vraiment l'inverse. Donc tout était basé sur le dialogue. Et donc, si on mettait juste deux personnages qui discutent pendant toute la BD, ça allait être un peu monotone. Donc voilà, il y a vraiment du... Larry, c'est vraiment hyper agréable de travailler avec lui. Donc il a déjà modifié son texte. Beaucoup, il a laissé tomber certaines répliques ou il en a ajouté d'autres qui fonctionnaient mieux avec l'image. Donc, parce que ici, c'était vraiment, c'est pas du tout un boulot de commande, quoi. Il m'a envoyé le texte, moi j'ai donné mes retours. On a changé l'ordre aussi des chapitres par rapport à la pièce. On a vraiment fait en sorte que le dessin serve, donc apporte quelque chose que dans la pièce on n'avait pas. Et donc. Donc du coup, voilà, oui, on avait les textes, et puis moi, il m'a laissé vraiment liberté totale sur ce que je mettais en plus dans l'image pour compléter ce qui se disait, quoi.
Et évidemment, ça te permet d'apporter ton interprétation, ton regard là-dessus, parce que le fait de jouer une scène dans tel endroit ou dans tel autre, avec tel type d'éclairage, tel type de lumière, que tel autre, ça donne une interprétation. Dans le fond, ça te donnait la liberté de mettre en scène, au bout du compte, son texte.
Complètement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quoi, donc le garçon au visage disparu, on se demandait comment est-ce qu'on le représente. Donc dans la pièce, d'ailleurs, la pièce, je ne l'ai pas vue. Et je voulais avoir une captation et Larry m'a dit mais non, je préférais que tu la vois pas, comme ça tu me donneras toi ton interprétation du visage du garçon au visage disparu. Et donc, je vais pas dire ce qui se passe dans l'album, mais en tout cas on a beaucoup discuté là-dessus avec Larry sur donc la vision que j'avais. Au départ, moi je voulais pas du tout qu'on le voit, que ce soit toujours dans l'allégorie, mais quelque part ça fonctionnait pas en BD. On a envie de voir, c'est pas comme quand on lit une pièce ou quand on lit un roman. Ou même sur une pièce de théâtre, on peut jouer sur la distance par rapport à la scène, etc. Mais ici, c'est un objet qu'on a dans les mains, donc on avait trop envie de voir ce qui allait se passer. Donc voilà, j'ai dû trouver une solution. Mais pareil, quoi, c'est ça qui est agréable de travailler avec quelqu'un comme Larry, c'est qu'il y a vraiment une collaboration. J'envoie les impressions que j'ai en lisant le livre. Et puis lui, en fonction de ça, va rebondir. Et c'est vraiment une collaboration, quoi. C'est super intéressant.
Et Pierre Lecrenier, sur le point que tu amènes par rapport à ce moment charnière-là, que je ne détaillerai pas non plus, parce que c'est un crescendo à l'intérieur de l'album amène aussi à ça et à cette révélation-là. Mais par contre, ce que j'aurais envie, c'est de tourner un peu autour en disant que la manière par laquelle vous avez choisi d'illustrer, au bout du compte, est un peu servi par un choix que vous aviez fait sur le plan du dessin. Si on revient un peu à ça, sur un dessin qui est très texturé.
Oui.
Et cet élément-là a bénéficié, dans le fond, d'un choix de texture pour donner du relief, pour donner une certaine profondeur, et qui ne détonnait pas par rapport au reste de l'album, parce que ce choix-là avait été fait au départ.
Mais en fait, parce qu'on a pas du tout travaillé de manière linéaire. Ça dépend un peu des scénaristes. En général, moi, je travaille avec des scénaristes. Et donc ça dépend un peu de ce qu'on met en place, mais ici on l'a vraiment pas travaillé de manière linéaire. Donc au début on s'est dit par quoi on commence, qu'est-ce qu'on teste d'abord, et donc on a d'abord testé le garçon, on a testé justement ces scènes-là, pour ne pas justement être bloqué et être dans un système visuel qui ne nous permettait pas de faire passer le moment le plus important du récit. Donc on est parti de ça, et puis alors après on a moi j'ai travaillé en fait tous les points clés de l'histoire, et puis une fois qu'on était d'accord sur tous les points clés, alors là j'ai repris le découpage depuis le début et j'ai fait l'album, quoi. Mais c'était vraiment difficile. Mais même de manière générale, moi j'ai un peu de mal à le faire de manière linéaire. J'aime bien tester d'abord tous les points clés et puis je les relis en faisant le reste du dessin, quoi.
Oui, mais j'imagine. En fait, ça assure qu'on n'aura pas justement à revenir à redessiner des planches, parce que finalement on se rend compte qu'un choix qu'on a fait, ben à ce moment-là, ben, tu l'as dit, dans le fond, ça devient un blocage, puis faut recommencer de toute façon. Donc,
voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je dois en parler maintenant, mais là, on travaille sur un autre projet avec Larry. Et c'est marrant parce que donc, lui, comme il n'est pas encore super habitué, je pense qu'il est à son troisième ou quatrième album de BD, il se disait, bah, voilà, on va recommencer comme on faisait avant. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas parce que, de nouveau, moi, je reviens avec des... Ici, par exemple, on n'a pas de cases dans cette BD-ci. Et dans la prochaine, il y en aura, parce que je trouvais que les cases étaient importantes pour avoir du rythme entre les scènes, alors qu'ici, je voulais que tout soit un peu flottant, qu'on ne sache pas toujours si on est dans la réalité ou dans le rêve. Donc du coup, moi, je trouve que c'est vraiment important, en tout cas dans ma pratique à moi, c'est vraiment important à chaque fois d'essayer de me... Voilà, j'ai un sujet, quelle est la meilleure traduction du sujet au niveau du traitement?
De donc, mettre toujours le dessin, puis, voilà. Puis l'approche visuelle au sens très large, au-delà du dessin lui-même, on parle des cases, ben c'est vrai, effectivement, puis de se retrouver, j'ai l'impression, dans Le garçon visage disparu, avec des cases carrées, on perdrait encore là de l'impact, on serait pas dans le même livre du tout, et peut-être que ça marcherait moins bien aussi.
Ben, par exemple, j'en parlais aussi hier aux étudiants, là, j'ai essayé, là, donc sur la nouvelle histoire qu'on est en train de monter, j'avais commencé avec des cases vraiment type... classique avec des angles, et du coup ça donne un côté très ça fonctionne bien, mais ça donne un côté super presque une BD d'action, alors qu'on n'est pas dans de l'action. Donc comme peut-être que c'est aussi mon type de dessin qui est assez j'ai un dessin quand même assez simple, je pense, par rapport à d'autres. En tout cas, c'est pas du dessin classique dans le sens où il y a plein de détails, etc. Et donc, du coup, tous les petits éléments comme ça, les cases, le bord, est-ce que je mets un fond, est-ce que je mets de la couleur, tous ces éléments-là ont beaucoup plus d'impact, puisque je joue sur ces éléments-là pour raconter mon histoire. Donc, c'est vraiment important de bien choisir le dispositif, quoi. Voilà.
Et dans le contexte du garçon visage disparu, si je m'attarde un peu, parce que on s'est dit qu'on ne donnerait pas le titre, qu'on ne dévoilerait pas trop sur le deuxième projet avec Larry Tremblay. Par contre, j'imagine avec le garçon visage disparu, il l'avait déjà mis en scène. Il avait déjà, lui, une vision visuelle de son univers. Est-ce que ça venait quand même un peu influencer la dynamique de travail, le fait qu'il y avait quand même déjà des éléments, des façons de représenter, ou même dans le casting des personnages? Lui avait déjà fait la démarche avec des comédien, donc comment ça s'est fait avec le dessin? Est-ce qu'il y a eu une perméabilité un peu entre les deux?
Mais pas tant que ça, parce que Larry dit toujours qu'il entend ses personnages, mais il ne les voit pas quand il écrit. Donc même quand il fait une pièce, il découvre les personnages. Il les voit pas en écrivant, en racontant ses histoires. Je crois que justement, lui, ce qu'il aime, c'est d'avoir la surprise, de voir ce que les gens vont voir. Enfin, il attendait de découvrir le personnage que j'allais créer, même pour cette pièce, hein, donc, qu'il a créée. Enfin, donc, j'ai oublié, pardon, le metteur en scène, mais le nom du metteur en scène. Mais donc, il n'avait vraiment aucune idée de ce qu'il voulait visuellement. C'est vraiment, il entendait plus les personnages que de les voir. Il me parlait toujours de ça. Donc du coup, ça n'a pas trop influencé. C'est plus par rapport à... Voilà, moi je lui donnais ma vision des choses, et alors là, il réagissait, il me disait, ah non, mais je sais pas, par exemple, par rapport à la maman, ah non, mais je la voyais pas aussi vieille, je la voyais un peu plus comme ça. Et donc, après, bah, j'ajustais mon trait en fonction de ça. Mais ça restait très ouvert, quoi. C'est juste que si quelque chose ne fonctionnait vraiment pas pour lui, admettons que si la femme, la maman paraît trop vieille par rapport à ce qu'elle dit, et que ça change le sens du texte, alors là il y a un problème, donc il me le dit. Mais sinon Oui, enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était plus, ça, il me poussait plus à créer des personnages que vraiment à me contraindre dans des personnages qu'il avait en tête, quoi.
Et de ce que j'en comprends, c'est ce qui poursuit avec la deuxième collaboration
voilà,
aussi, où dans le fond, t'as une liberté sur la structure, ouais. sur la manière de la mettre en image, puis au bout du compte, la manière de la mettre en image influe aussi la méthode de travail, c'est ce qu'on
ouais.
comprend, donc...
Mais ce qu'il y a aussi, moi, j'ai jamais travaillé avec un scénariste... donc parce que Larry, en fait, il écrit des romans, il écrit des pièces, et donc du coup, des pièces de théâtre... ou même des opéras. Et donc, du coup, le fait de travailler avec lui, ça ouvre le... On parle pas que de BD, quoi. Mm. Ça ouvre le champ. Et moi, je viens plutôt du graphisme. Alors, parfois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, comme ça, quand je fais de la bande dessinée. Bon, maintenant, ça commence à aller, parce que ça fait une dizaine d'années que je fais vraiment ça, mais... Et du coup, voilà, avec quelqu'un comme Larry, ça me met en confiance parce que il utilise des codes qui sont pas toujours ceux de la BD. Et du coup, je me sens pas démuni par rapport à ce qu'il me demande, quoi.
Oui, puis même à la limite, en fait, puis on parlait un peu sur les cases, mais on pourrait aller creuser un peu d'autres exemples en analysant le garçon au visage disparu, puis en se disant que dans le fond, on n'a pas non plus une soumission au code de la BD, justement, ouais. on s'amuse, ça donne l'opportunité, justement, de jouer un peu à l'élastique, de t'approprier certains codes, d'en mettre de côté d'autres qui ne conviennent ouais. pas d'un point de vue narratif, parce qu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas d'attente.
Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, en fait, moi, j'ai une formation de graphiste, plutôt, et j'aimais vraiment bien ce métier-là, mais à un moment donné, j'avais envie de faire des choses plus personnelles. En graphisme, c'est toujours vraiment de la commande. C'est très difficile d'avoir... Il y a des graphistes vraiment auteurs, mais c'est quand même plus difficile. Et en graphisme, on est toujours... On doit toujours mettre un peu... c'est vraiment un outil de traduction. Donc, quelqu'un veut communiquer une idée, ben on va choisir les visuels. S'il faut de la photo, de l'illustration ou juste de la typographie, on va choisir les codes les codes les plus appropriés pour faire passer l'idée. Donc, du coup, en BD, je crois que ça, c'est un truc qui me reste du graphisme, où à chaque fois, je me dis qu'est-ce qui conviendrait le mieux pour faire passer l'idée. Est-ce que c'est du noir et blanc, de la couleur? Est-ce que ça doit être encore plus simple dans le dessin? Est-ce que je dois justement travailler un peu un dessin plus réaliste pour y arriver? Et donc, à chaque fois, c'est un peu la recherche des codes avant de se lancer dans le travail, quoi.
Et dans le cas du garçon au visage disparu, on le disait, Pierre Lecrenier était en Belgique, Larry Tremblay est à Montréal, la BD ouais. se passe à Montréal. Donc, quand on dit de dessiner un arbre, l'arbre de Montréal puis l'arbre
ouais.
de Belgique, c'est pas nécessairement le même. Les autos ouais. sont pas nécessairement les mêmes non plus. Donc, j'imagine qu'il y a un travail là-dessus aussi à faire.
Oui, c'est marrant parce que tu justement sur les arbres et les voitures, parce que au début, donc j'étais venu à Montréal, donc j'avais quand même j'avais fait pas mal de croquis ici parce que je fais souvent des croquis en voyageant, mais bon voilà, on n'a pas toujours tout sous la main, et donc là j'avais dessiné des arbres et des voitures, et c'est le premier truc que Larry m'a dit mais non, les arbres à Montréal, ils sont pas comme ça, et les voitures elles sont beaucoup trop petites à Montréal, il faut qu'elles soient plus grosses, ou en tout cas il faut quelques bien grosses voitures, sinon on a l'impression d'être à Bruxelles. Et oui, donc ça ce sont les planches que je préfère presque dans l'album, c'est les vues de la ville comme ça. Il y a plusieurs planches on a un peu plus généraliste. On voit bien la ville, et c'est ce que j'ai préféré faire, je pense, parce que j'étais obligé de me remettre dans l'ambiance de Montréal.
Oui, puis cette ambiance-là devient nécessaire aussi pour le récit, parce que le récit est très rythmé par le passage des saisons, donc
ouais.
cette
oui,
nature-là, cette urbanité-là a son importance aussi narrativement.
Oui, complètement. Donc, d'ailleurs, quand je parlais des points clés, c'est un peu ce genre de choses, quoi. On voulait vraiment avoir une espèce de chapitrage qui n'existait pas vraiment dans la pièce de départ, parce qu'il y a beaucoup on revient souvent en arrière dans le récit, puis on repart dans le futur, donc il fallait vraiment être très clair sur les codes, et donc ces images-là étaient hyper importantes. C'est dans les premières images que j'ai créées, c'était ces images de général pour camper l'environnement, voir où ça se passe à chaque fois. C'est dans différentes parties de la ville, partie plus pauvre, partie où on a tous les magasins, des choses comme ça. Donc oui, c'était assez important dans le récit.
Et tu as mentionné en cours de route le code couleur que tu as développé aussi, dans le fond, qui s'est imposé, qui change le regard qu'on porte à la fois sur ces scènes-là, à la fois sur les scènes plus intimes, sur le dialogue, où tu as été, si je ne me trompe pas, vert pour le printemps, pour les moments peut-être plus drôles aussi. On est dans le rouge pour des passages peut-être un peu plus glauques, quand on tombe un peu dans l'horreur aussi, des zombies qui apparaissent là-dedans. Des moments plus froids aussi en hiver, des bleus, des blancs. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est un peu les trois tonalités dominantes de l'album.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis ça permet aussi, parce que donc c'est pas toujours très tranché, donc à certains moments, on passe d'un registre à l'autre. Et donc ça permettait, avec les couleurs, de passer progressivement dans certaines scènes, d'un registre comique ou froid à quelque chose de plus chaud ou de plus dur. Enfin voilà, on peut vraiment, vraiment comme des dégradés, on mélange les couleurs, donc c'était vraiment hyper pratique, quoi.
Oui, puis ça donne des tonalités particulières aussi à certaines scènes, ou une couleur à des scènes plus intimes.
Ouais.
Si je ne me trompe pas, il y a une scène clé justement où la mère découvre un peu ce qui arrive à son fils.
Ouais.
Une scène de contact qui est très intime, qui est très proche, avec une couleur qui est peut-être un peu plus froide, un peu plus... On est à mi-chemin entre le vert et le bleu dans ça. À mi-chemin entre deux émotions, au bout du compte aussi, peut-être.
Oui, complètement. Ben, c'est tout le... Moi, c'est le moment que je préfère dans le récit, quoi. On est presque dans du... Il y a presque du mouvement. Enfin, on voulait vraiment essayer d'avoir presque du mouvement dans une image fixe, comme ça. C'est difficile à expliquer. Je ne sais pas très bien
comment... Oui, parfait. Puis c'est le genre de scène qui est difficile à expliquer, qui est probablement difficile, j'imagine, aussi à imaginer, à trouver la recette. On en a parlé un peu avec les textures, on en parle un peu avec les couleurs. Et c'est le genre de scène, quand tu parlais des moments importants, mais je pense qu'on l'a mentionné aussi là-dedans, parce que c'est un pivot dans le récit. Et si cette scène-là se plante, si ça ne marche pas, la charge émotive du récit ne sera pas là. C'est qu'il ne faut pas... Et j'imagine qu'à un moment donné, à force d'explorer, de dessiner, à un moment donné, on dit « OK, là, c'est ça, on a la solution. » Puis après ça, il y a plein d'autres choses qui en viennent à débloquer.
Mais c'est vraiment... C'est pour ça que je disais, donc on a commencé par toutes ces parties-là. Et puis quand on était bon là-dessus, quand on s'est dit « OK, ça... » Donc les moments les plus...
difficiles.
Difficiles et les plus dangereux aussi à... Ben une fois qu'on a eu ces moments-là, on s'est dit bon, c'est bon, on peut finir l'album. Mais on a mis beaucoup plus de temps là-dessus que sur le reste, en fait. Mais voilà.
Et après ça, est-ce que c'est difficile un peu parce que...
Excuse-moi. Pardon.
Après ça, est-ce que c'est difficile un peu dans la construction du récit? On s'est mis un peu les éléments de crescendo, mais de bien lier ces moments-là pour quand même bâtir sur l'émotion. Sans tomber dans du remplissage, parce qu'on sait, mettons, qu'on a un nombre X de pages qu'on veut amener d'une à l'autre, j'imagine, qu'on a un plan de match. À un moment donné, on se rend compte que c'est trop court, c'est trop long.
En fait, avec Larry, ce que j'aime bien, c'est que moi, j'aurais tendance parfois à en faire trop, à faire un mouvement sur 10 pages, 15 pages. Et lui, il a quand même ce côté, il aime quand même bien que ça avance dans le récit, quoi. Donc... je crois que le bouquin il fait 100 ou 110 planches, quoi. Au départ c'était plus long, mais Larry vraiment tenait à ce qu'on avance assez vite, justement pour ne pas avoir des moments parce que voilà, ce qu'on a mis en place ça fonctionne, mais si c'est trop long ça peut devenir soporifique aussi, quoi. Si on est trop dans vu qu'on joue sur le flou, que les cas sont un peu molles, je veux dire, donc il faut pas non plus que ça devienne trop long. Mais donc Larry il veillait bien à ça, donc
ça devenait un peu ton premier lecteur dans le fond, aussi, avec le poids ou la capacité d'avoir écrit l'histoire, d'avoir déjà une écoute dans le fond des personnages puis de l'univers qu'il avait construit. Puis après ça te faisait une rétroaction assez rapide au bout du compte pour savoir si t'étais sur la bonne piste, si il y avait des choses à explorer, puis en plus dans le fond une dynamique de dialogue où tu pouvais explorer avec lui dans le fond pour bâtir ça.
C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi travailler avec quelqu'un, parce que on me demande parfois, on n'est pas bloqué sur un projet, mais quand on travaille à deux, si ça se passe bien avec la personne, ici, c'est vraiment c'est un ami, quoi. Donc, non, parce que ça patine pas vraiment, parce qu'à chaque fois, on propose quelque chose, et donc l'autre personne réagit, donc que ce soit bien ou pas bien, ça fait avancer les choses, quoi. Donc, non, ça fonctionne pas, ça me donne envie de faire l'inverse de ce que j'ai fait, si c'est bon, je continue, donc. J'ai l'impression qu'on a on n'a pas trop patiné quoi, sur ce projet, ça avançait bien.
Oui, voilà. Puis en fait, j'imagine que ça devient aussi dans une logique de collaboration, ouais. C'est un peu parce que, bon, tu disais, tu fais de la BD depuis une dizaine d'années, mais on garde aussi du graphisme en parallèle,
ouais.
Justement pour sortir de sa zone de confort, pour travailler avec d'autres, pour
voilà.
se mettre différemment en danger peut-être un peu. Puis ouais. C'est un peu par là aussi, j'imagine, que ton style t'explore, tu développes des nouvelles techniques, qu'après ça, tu peux appliquer à des albums comme Le Garçon Visage Disparu.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression... Enfin, on est tous différents quoi, en BD, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça que j'aime bien. Moi, j'ai pas du tout le fantasme, tu vois, du gars qui fait sa BD dans sa chambre avec tout son monde. Et... Moi, là, plutôt, la BD, ça me permet de rencontrer à chaque fois une personne, ou parfois les mêmes personnes, mais c'est chaque fois sur de nouveaux projets, c'est à chaque fois une aventure à peu près d'un an, on va dire, un an et demi, en fonction des projets. Ça permet de s'intéresser à, je sais pas, en fonction du sujet, on va s'immerger dans un... On va devoir lire des choses, prendre de la doc, voyager s'il y a moyen. Et donc, enfin voilà, moi c'est vraiment ça qui me manquait justement dans mon métier de graphiste. C'est qu'ici, on a un an et demi pour s'immerger dans une autre...
C'est moins de l'instantané, il y a plus de réflexion, il y a plus le temps de réfléchir puis d'expérimenter pour trouver la bonne adaptation parce que les échéances sont un peu plus larges.
C'est ça, ouais. Bon, après, en parallèle de ça, parce que c'est pas toujours facile non plus de vivre que de la BD, donc en parallèle de ça, au début, je faisais encore du graphisme, etc. Mais c'est pas facile parce que c'est pas les mêmes temporalités. Et là maintenant je fais vraiment que de l'illu quoi, en plus et c'est bien aussi parce que du coup avec l'illustration on a quelque chose d'assez rapide, donc de temps en temps ça fait du bien aussi de sortir des choses, voilà, parce qu'on sait bien que la BD elle sort que dans un an et demi, et donc l'illu ça permet de temps en temps de faire un truc un peu plus rapide, avancer, tester de nouvelles choses aussi graphiques qu'on peut éventuellement réutiliser dans la BD aussi, et voilà, je trouve que c'est un bon équilibre en plus de la BD quoi.
Et en terminant, Pierre Lecrenier, dans le fond, on le disait, on va te voir prochainement dans le fond dans une autre BD avec Larry Tremblay, donc ça c'est un projet sur lequel tu travailles, il y a d'autres projets aussi en parallèle qui gravitent, donc il y a quelques productions qui vont faire qu'on voit ton nom réapparaître en librairie là, dans les mois
quoi, à venir. Parce que, j'espère avec, parce que donc là déjà cet album-ci il aurait dû sortir un peu plus tôt, enfin en tout cas en Europe, mais avec le Covid tout était un peu reporté. Mais maintenant voilà quoi, il faut toujours un petit moment pour que ça s'installe et là ça commence, donc moi j'ai toujours deux longs projets qui se chevauchent, donc là je commence un autre projet avec Nicolas Pitz qui est, parce qu'à Bruxelles on a un atelier, on est à 6, donc là c'est un copain d'atelier avec qui donc il va s'occuper du scénario mais qui dessine aussi en général. Et donc voilà, ça va un peu se chevaucher avec ici le projet, donc on commence avec Larry. Et puis, une fois que le projet est bien lancé, on commence avec Nicolas. Et du coup, ça donne aussi... Parce que dans un projet, il y a différentes phases. Le début, c'est plus de la documentation. Il y a un côté... ça prend beaucoup d'énergie, je trouve. Et puis après, on est, à un moment donné, on réalise les planches. Moi, je trouve ça un peu plus... un peu moins énergivore, quoi. Donc, du coup, ça permet, sur un autre projet, de tester des choses et...
Voilà. De ne pas rester dans une routine complètement ancrée sur un album, sur un univers pendant plusieurs mois, mais de le faire sur un petit peu plus long terme et de ne pas se lasser, j'imagine,
voilà,
aussi
c'est
d'un
ça.
Univers.
Moi, j'ai vraiment du mal avec la routine, quoi. Alors que c'est important en BD parce qu'à un moment donné, il faut bien faire plusieurs fois le même personnage, mais c'est vrai que parfois j'ai du mal avec ça, donc j'essaie de trouver des subterfuges pour ne pas que je m'ennuie, quoi. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne bien comme ça.
Oui, si c'est au bénéfice de l'album.
Voilà.
À un moment donné. C'est des choix narratifs.
Ouais. Oui, c'est ça. J'espère.
Est-ce qu'on a déjà des échéanciers ou des calendriers sur ces albums-là?
Pas vraiment. Enfin, non, j'espère que donc pour janvier 2020. Donc là, on est en 2021. Donc en 2023, j'espère qu'on en aura déjà un qui sortira. Mais bon, ça dépend un peu aussi. Des éditeurs, quand est-ce qu'ils veulent sortir l'album, il y a
beaucoup d'impondérables.
Voilà, mais bon, ça sera plus ou moins, ça sera à mon avis en tout cas début 2023, puisqu'on va être, on est en, j'ai du mal.
Ouais, c'est ça. On est en 2022.
Voilà.
Donc 2021. En fait, j'ai du mal aussi.
Voilà.
La COVID nous change un peu.
Donc ça sera plutôt début 2023, je pense. Voilà.
Et d'ici là, bien évidemment, on peut se mettre sous la dent et sous la main. Donc, cet album qui est déjà disponible en librairie. Je rappelle, ça s'appelle Le garçon au visage disparu. C'est de Pierre Lecrenier et de Larry Tremblay. C'est du côté au Québec des éditions La Bagnole. Et s'il y en a qui nous écoutent en Europe, c'est du côté de Ken. Pierre Lecrenier, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
On poursuit toujours ici à La vie en BD et ben, on plonge dans l'événementiel. Pourquoi? Ben parce que mercredi soir prochain, le 8 décembre, sur la scène littéraire de la Maison de la littérature, va se tenir le dernier rendez-vous de la BD de la saison d'automne 2021. N'ayez crainte. À nouveau, ben, ce sera présenté à la fois en salle, devant public et webdiffusé également en direct sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Et comme à l'habitude, le médiateur en bande dessinée, concepteur, animateur de l'activité, Michel Giguère, est avec nous pour nous en parler. Michel, bonjour.
Salut Raymond, merci de m'inviter encore et encore.
Plaisir partagé. Et Michel, en fait, ton titre annonce un programme qui est quand même relativement ambitieux. Tu nous avais déjà un peu esquissé ces éléments-là, mais donc le programme, c'est la bande dessinée québécoise au 21e siècle. Donc, c'est ambitieux, comme on dit.
Oui, effectivement. Écoute, la BD québécoise connaît un tel essor depuis particulièrement une vingtaine d'années là, que c'en est devenu tout un contrat de la présenter dans son ensemble, de l'embrasser dans son entièreté. Mais l'histoire commence par une promesse. Si tu te souviens bien, Raymond, j'ai fait la rétrospective des rendez-vous de la BD là, cette année à travers mes coups de cœur des années 2010-2020. Puis ça a été en deux parties, en février 2021 et puis en septembre dernier. Et en préparant cette rétrospective-là, j'ai vite compris que c'était très inconfortable d'afficher mes préférences dans un milieu tricoté aussi serré que celui de la bande dessinée québécoise. J'ai donc, à ce moment-là, écarté toutes les BD québécoises de mes coups de cœur, tout en promettant de consacrer sous peu un rendez-vous de la BD en entier aux BDistes d'ici.
Mais il faut dire, voilà. En fait, ce n'est pas la première fois non plus là, que tu consacres une rencontre à la bande dessinée québécoise.
Non, puis même, non seulement je l'ai déjà fait, mais c'était lors de la toute première saison des rendez-vous en 2005. Ensuite, j'ai récidivé en deux parties, en 2010 et puis 2011. Le second volet portait sur les BDistes du Québec qui sont publiés en Europe. Mais là, un autre 10 ans plus tard, j'avais envie d'aborder la production québécoise vraiment dans un angle très différent.
Et justement, en angle différent, je pense que c'est le terme est bien choisi parce qu'on est habitué à te voir seul sur scène nous présenter le fruit de tes recherches. Et pour ce rendez-vous de la BD du 8 décembre, tu as été vers une formule qui est relativement inédite là, pour toi.
Oui, ben relativement, je dirais même pas. C'est vrai, relativement inédite parce que en ceci, comme tu viens de dire, d'habitude, je suis seul sur scène. Or, je vais être encore tout seul sur scène avec un écran et en fait, accompagné d'un tas d'artistes via leurs œuvres, leurs planches, leurs couvertures. Ce qui est inédit, c'est qu'en bientôt 17 ans d'existence, eh bien, c'est le premier rendez-vous de la BD qui sera collectif. Le contenu va être collectif. Pour revenir à ta question de tantôt, là, oui, le sujet est ambitieux. Alors, moi, j'ai appelé du monde à la rescousse et ma motivation à le faire, elle était double. D'abord, renouveler la formule, comme j'essaie toujours de le faire, ou en tout cas, tout au moins de diversifier un peu. Ensuite, braquer le projecteur sur celles et ceux que moi j'appelle, entre guillemets, les travailleurs de l'ombre. Ces libraires, représentants de distributeurs, enseignants, animateurs, chroniqueurs, employés de bibliothèque, coordonnateurs d'événements BD, etc., etc., qui, semaine après semaine, œuvre à la promotion de la BDQ consciencieusement, discrètement, passionnément. Et j'ai donc écrit à celles et ceux que moi je connais pour leur offrir de faire ce qu'ils font si bien, parler de bande dessinée et plus particulièrement de bande dessinée, en l'occurrence québécoise.
Et j'imagine que tout ça représente un type de préparation qui est très différent par rapport à ce que tu fais généralement.
Oui, le mois que je viens de passer ne ressemblait pas à mes préparations habituelles. Parce qu'au lieu de mettre beaucoup de temps sur le contenu, j'en ai mis sur les communications et la coordination de tout ce monde-là. Ce qui n'a pas changé pour moi, c'est la recherche d'images, puis la lecture ou la relecture des œuvres dont il sera question. Mais en ce qui concerne la coordination de toute la bande, j'ai essayé de faire ça le plus simple possible. L'apport de chacune et de chacun consiste à présenter brièvement une tendance, un phénomène, un genre. Non pas qu'il leur paraît le plus important, là, parce que trop de participants auraient traité des deux, trois mêmes sujets, mais un sujet qui les a plus particulièrement intéressés, eux, voire même qui les a marqués dans la BDQ depuis l'an 2000. Et concrètement, leur contribution a consisté à me transmettre au plus tôt le sujet dont ils avaient envie de parler, me fournir un texte d'une couple de paragraphes qui résume beaucoup, évidemment, qui résume le sujet et puis qui pointe en quoi ils trouvent ce sujet-là intéressant, et choisir une autrice ou un auteur ou un album ou une série qu'ils considèrent représentatif de leur sujet, et finalement, me fournir un portrait d'eux, photo, caricature ou portrait dessiné, là, un portrait d'eux dans le cadre de leur pratique.
Et donc, on parle d'à peu près combien de personnes virtuellement à tes côtés dans ce rendez-vous choral?
Oui, choral, c'est beau, c'est un bon terme. Il y en a 15 qui ont répondu favorablement et gracieusement à mon appel.
Et ben, en fait, si on fait un petit tour d'horizon, justement, des gens qui ont accepté ton invitation?
Eh bien, il y a notamment un participant à ton émission, le vénérable Marco Duchesne, libraire spécialisé en BD chez Pantoute. Jean-Paul Hyde, auteur et chroniqueur radio. Moi, j'ai surtout interpellé en tant que chroniqueur radio sur une station
concurrente. Club de lecture, plus on est fou, plus on lit Radio-Canada.
Voilà. Marc Gagnon, technicien en documentation dans le bas du fleuve, chroniqueur BD, entre autres pour le podcast des Crinqués. Daniel Sonneau, enseignant au primaire et chroniqueur bande dessinée à Cieux FM Carleton-sur-Mer et aussi à l'émission Au cœur du monde à Radio-Canada de Matane. Aline Plante, attachée de presse et responsable des communications pour la boîte de diffusion. Éric Bouchard, professeur de littérature au Cégep du Vieux-Montréal, qui est ex-éditeur chez Mécanique Générale et puis ex-libraire spécialisé en BD. Mira Falardeau, qui est docteur en BD, spécialiste de la bande dessinée et essayiste en humour visuel. François Mailleux, conseiller en BD, président de la librairie Planète BD à Montréal. Luc Bossé, éditeur chez Pawpaw. Michel Huillot, scénariste et historien de la BD québécoise. Jean-Dominique Leduc, chroniqueur BD pour la presse écrite et la radio. Il est aussi, évidemment, auteur, animateur du balado Vous avez dit BD, conférencier et libraire, la librairie Z à Montréal. Joanne Desrochers, directrice générale du Festival de la bande dessinée de Montréal jusqu'à tout récemment. Elle vient de nous annoncer qu'elle se retire. Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD. Et pour finir, un certain Raymond Poirier, là, qui est animateur de La vie en BD.
Un illustre quidam. Et oui. Michel, en fait, de tout ça, dans le fond, on sait qui va parler, dans le fond, à travers ce que tu vas nous présenter. Mais maintenant, de quoi vont-ils parler en lien, bien sûr, avec ce thème général, donc qui est la BD québécoise et son évolution depuis une vingtaine d'années?
Ah ben, il va être question du marché de l'édition qui s'est professionnalisé, de la distribution qui est, je considère, moi, le nerf de la guerre. C'est l'avis aussi de la personne qui va en parler. Les librairies, les bibliothèques publiques et scolaires, les médias, le lectorat, les genres, plus particulièrement là, la BD intimiste, la BD documentaire et les genres de l'imaginaire. Il va être question aussi des blogs et de d'autres sujets. Mis bout à bout, là, dans un ordre que moi, je vais m'efforcer de rendre cohérent, eh bien, leurs contributions respectives qui vont se conjuguer au visuel que je vais ajouter et que je vais projeter, tout ça va former une manière de grande mosaïque collective et qui va être très impressionnante. C'est ce que je me passe comme réflexion là, en préparant tout ça. Ça va donner un portrait d'ensemble forcément incomplet et férocement subjectif de la BD québécoise au 21e siècle.
Et j'imagine en allant à la pêche comme ça aussi sur des sujets, des éléments, donc ça ouvre même pour toi à la découverte parce que nécessairement ce que tu avais en tête avant de préparer celui-là puis ce que tu vas nous livrer le 8, bien, il peut avoir dans le fond une évolution en fonction de ce que cette quinzaine de personnes-là t'ont proposé, suggéré, présenté dans le fond comme sujet.
Absolument, c'est un plaisir en fait de pas être Dieu qui est omnipotent puis qui est responsable de tout puis qui fait tout. Moi, là, je suis une courroie de transmission Oui, je vais enrober ça en choisissant des images, mais c'est eux qui m'ont dit de quel album ou de quel auteur il serait question avec leur sujet. Et puis, effectivement, des fois, l'angle dont ils parlent d'un sujet fait en sorte que, de prime abord, j'aurais pensé parler de ça, dans cet ordre-là. Et là, je me rends compte que, ah non, là, tout d'un coup, je vois se dessiner une autre possibilité là, de cohésion, de cohérence, de fil conducteur. Et ma foi, tout ça aussi, je te dirais, sans qu'il y ait vraiment de dissension d'opinion, ou comment je dirais, il y a des choses qui sont consensuelles. Il y a certaines interventions qui vont être un petit peu plus polémistes, mais de façon générale, c'est surtout une espèce de constat de tout le monde ensemble, là, un constat qui est partiel pour chacun des participants, mais de quelque chose qui est vraiment réjouissant et qui est indéniable, là, c'est que la bande dessinée se porte bien, et particulièrement la bande dessinée québécoise vit dans cette période-là, a vécu et vit encore une espèce d'âge d'or, vraiment.
Oui, en fait, c'est toujours la question, un peu, est-ce qu'on est dans un troisième âge d'or de la BD québécoise, après les années 1905, après l'effervescence des années 70, après Chiendent et avec la montée de Cro, la professionnalisation du milieu. Et là, vraiment, depuis une vingtaine d'années, là, c'est une explosion extrêmement riche. Et je pense que ceux qui ont grandi peut-être un peu dans l'écosystème actuel prennent pas conscience, peut-être, ou prennent peut-être plus difficilement conscience de cette effervescence-là, de la variété de propositions à laquelle on a accès actuellement et pas seulement du côté international, justement.
Oui, ben, quand moi je livre mes propres rendez-vous de la BD, j'ai toujours le souci de situer ça dans une perspective plus à long terme. Et c'est devenu un running gag, là. J'ai une espèce d'écran intertitre là, qui apparaît et qui dit ça ne date pas d'hier, trois petits points. Toujours pour rappeler que je peux vous dire la bande dessinée vit un âge d'or actuellement sans vouloir dire. Par ce fait même, qu'on vient de réinventer la roue, là. Ça vient toujours de quelque part. C'est juste que depuis quelques années, ce qui jusque-là avait été des tentatives pas toujours pérennes, qui n'ont pas toujours donné beaucoup de fruits après coup, eh bien là, il y a des choses qui se mettent à se généraliser, à se systématiser. Tu sais, des petits formats, moi, j'ai grandi en consommant de la bande dessinée sous toutes les formes. Fait que moi, qu'on me dise que c'est juste depuis les années 90 qu'on publie des BD en petit format, je suis là, ben non, là, vous êtes amnésique, là. On va, si vous voulez, on va se rafraîchir la mémoire, là. Mais c'est ça, c'est que là, c'est ça, il y a des barrières, il y a des canevas, il y a des carcans qui tombent, qui se brisent et qui balaient pas nécessairement tout du revers de la main, de telle sorte que tu peux avoir des bandes dessinées de 500 pages en plus petit format. Tu peux avoir toutes sortes d'esthétiques et ça n'empêche pas la BD conventionnelle de continuer de fleurir puis de trouver son public. Mais c'est juste que je pense que le public qui demeure fidèle à la bande dessinée plus classique, plus conventionnelle, lui demeure puis est toujours nourri, toujours satisfait. Et en parallèle de ça, il y a des gens qui ne lisaient pas de bande dessinée parce qu'ils ne trouvaient pas leur bonheur dans une offre qui était peut-être plus restreinte et qui, là, devant l'élargissement des thématiques, des sujets, des esthétiques, vont vraiment adhérer puis se mettre à devenir des lecteurs réguliers. Et puis, entre ces deux extrêmes, c'est un grand mot, mais entre ces deux pôles, il y a des gens comme moi qui ont toujours un petit peu tout lu par curiosité, de sorte que c'est ça, je suis capable de faire quelque chose sur la BD intimiste ou sur la BD documentaire, et puis le mois suivant, de livrer avec autant de passion quelque chose sur les séries classiques. C'est ça, je ne crois pas qu'il faille jeter rien aux poubelles, il faut juste actualiser, bonifier, et puis un pied dans la tradition, puis l'autre dans l'innovation.
Et c'est un peu ce qu'on va découvrir, dans le fond, avec ce récit choral que tu vas nous livrer, récit choral autour, justement, de la BD québécoise au 21e siècle. Je le rappelle, donc, c'est le 8 décembre prochain, donc, sur la scène littéraire de la Maison de la littérature à 19h. Donc, on peut s'y présenter sur place. Évidemment, on réserve son billet d'avance. Les places sont limitées. Et sinon, ben, c'est possible également de profiter d'une diffusion en direct sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Et si... par un malheureux hasard, ben, on n'est pas disponible mercredi. On peut se rappeler que les rediffusions demeurent disponibles après l'activité également et qu'il est possible autant de visionner celle-là que de visionner l'ensemble de la dernière année et plus oui. de diffusions que tu nous as livrées. Et ben, ma foi, si on se demande comment occuper certains moments plus creux pendant le temps des fêtes, eh ben, on a là également une belle manne de conférences à se mettre sous les yeux et sous les dents.
Oui, bien, sans tout écouter, on peut choisir les sujets qui sont, comme je le disais tout à l'heure, très variés.
On va tout écouter.
Écoute, Raymond, juste un petit détail par rapport aux réservations, parce que c'est vraiment à cause de la pandémie là, que désormais il faut réserver. Je voudrais dire aux gens qui se décident à la dernière minute, lâchez un coup de fil la journée même, parce que c'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui réservent et qui ne se présentent pas. Il y a toujours des places libres. Puis je sais que par ailleurs, sûrement qu'on refuse des gens. Là. Fait que donc, même si vous n'avez pas réservé, puis que vous êtes à la dernière minute, prenez pas pour acquis que c'est complet, et puis prenez une chance et présentez-vous, ou alors appelez le jour même. Là.
Oui, exact. Enfin, on commence à être malheureusement habitué par ces fausses présences qui sont annoncées, annulées un peu dernière minute. Là. Donc oui, l'appel est lancé aussi là-dessus.
Je vais m'arranger pour être là, moi.
Ça serait difficile sinon.
Oui.
Et Michel Giguère, merci beaucoup. Alors, on se revoit le 8, et ensuite, ben, l'année prochaine, pour continuer à jaser 9e art.
Oui, ça va reprendre en février seulement.
On prend quelques instants pour signaler quelques prix qui ont été rendus publics. Les prix des libraires, en fait, qui ont rendu disponible leur liste préliminaire pour les bandes dessinées, également les finalistes BD Jeunesse qui ont été aussi annoncés. Alors, liste préliminaire qui est sélectionnée évidemment par un comité de libraires qui sera ensuite appelé au vote par l'ensemble des libraires de la province. Et sincèrement, le comité a fait un beau travail donc dans le cadre temporel qui leur était alloué, là, parce que bon, les prix et la notion d'année est toujours un peu variable en fonction de quand on commence, quand on termine. Donc, ce qui fait que vous allez retrouver des titres qui étaient dans d'autres sélections en 2021, par exemple, qui se retrouvent dans la sélection 2022 des libraires. Mais d'une heure ou d'une autre, 6 suggestions que j'entérine largement dans la sélection Québec. Vous avez Emmanuel Dufour, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Kiem, terre maternelle de Djibril et Yasmine Fan Morissette. Le petit astronaute de Jean-Paul Hyde. Mégantic, un train dans la nuit d'Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel. Les temps libres de Mélanie Leclerc. Et le verre La Tempête de Jean-Sébastien Bérubé. Six albums d'ailleurs dont on a parlé de manière assez intégrale, si on peut dire, au fil de la dernière année. Donc, si jamais vous voulez retracer les entrevues pour creuser aussi ces albums-là. Et sincèrement, si vous cherchez des listes de suggestions, là, je pense que vous en avez 6 très, très belles de ce côté. Pour la sélection Hors Québec, ça reste aussi très intéressant. Vous avez J'ai tué le soleil de Winchlus, qui était d'ailleurs à l'office d'un de nos clubs de lecture il n'y a pas si longtemps. Vous avez L'âge d'or, donc le deuxième tome de Pedrosa et Morey, qui est poursuivi dans le superbe qui était déjà implanté dans le premier tome. La bête de Zidrou et Franck P., donc cette adaptation un peu réaliste, si on peut dire, de l'univers du marsupilami. La désolation d'Apollo et Gauthier. Le Oleg de Frédéric Peters et René au bois dormant de donc qui se retrouve, qui complète donc cette sélection donc d'Hélène Husdin. Donc, quelques-uns que je n'ai pas lus là-dedans, qui sont dans ma liste de rattrapage de toute évidence au fil du temps des fêtes. Et puisqu'on est sur les prix, je profite également pour mentionner que les 5 finalistes du Grand Prix ACBD de la critique 2022 ont également été annoncés. Alors, il s'agit d'Écoute Jolie Marcia de Marcelo Quintanilla, du Grand Vide de Léa Murawick, des Grands Serres de Gaétan Nock d'après Claudie Odinger, de Jour de sable d'Aimé de Jung, dont Stéphane Gravel nous avait activement parlé,
et de René au bois dormant de Hélène Udin, qui se retrouve également dans cette sélection. Et peut-être dernier clin d'œil en rapport au prix, simplement pour vous indiquer qu'un peu plus tôt cet automne, Coda avait obtenu le prix Comics ACBD, donc édition 2021. Donc, Coda Omnibus, scénarisé par Simon Spurrier, dessiné par Mathias Bergara, un comic book qui, dit-on, offre une plongée dans un univers mêlant post-apocalyptique et fantasy et faisant la belle part au récit oral. Donc, une saga qui parvient à rester extrêmement humaine tout en plongeant le lecteur dans des péripéties hautes en couleurs, dessinées avec nervosité et intensité. Prends quelques instants pour un petit commentaire BD. J'avais envie de vous jaser de Suzette ou Le grand amour de Fabien Toulmé cette semaine. Donc, un album, ma foi, fort agréable qui nous arrive chez Delcourt. Un album qui nous entraîne aussi dans un sujet qu'on ne voit pas si souvent que ça en bande dessinée. Il faut dire, en fait, d'entrée de jeu que Toulmé, bien, on le connaît. Il nous offre des récits quand même bien souvent à caractère très personnel, soit inspiré de sa vie, soit de celle d'autres, soit de la fiction, des récits qui sont généralement avec une belle profondeur, avec une belle sensibilité. Entre autres, en fait, Ce n'est pas toi que j'attendais, qui est un récit autobiographique, donc sur la paternité, mais sur la venue aussi d'un enfant qui est différent, qui est en situation de handicap. Il y a également à faire Les deux vies de Baudouin sur la maladie, L'Odyssée d'Hakim, donc sur le périple d'un migrant. C'est quand même trois tomes extrêmement documentés, extrêmement riches. Et là, il nous arrive avec un autre pavé, là, quand même pratiquement 300 pages, donc avec Suzette ou Le grand amour. Alors là, on est dans des sujets encore assez intimes, si on peut dire, entre les deux personnages, donc deux personnages qui sont au cœur de ce récit, donc Suzette et sa petite-fille Noémie, petite-fille dans le sens de Suzette est la grand-mère de la deuxième et pas en termes de taille, évidemment. Alors, Suzette, donc, elle a perdu son mari depuis peu de temps, elle vit seule désormais, et sa petite-fille Noémie, adulte, donc, est un peu sa prochaine aide, si on peut dire, ou mais c'est une relation, disons, très, très, très équitable entre les deux, là, parce que Suzette, elle, est quand même très capable de fonctionner aussi, mais elle est seule, donc il y a une certaine présence, une dynamique qui s'installe. Et donc, les deux sont un peu à des jalons marquants de leur vie réciproque, donc avec la perte d'un mari et la reconstruction, dans le fond, d'une intimité en dehors de cette relation de couple qui a été très longue, de ce qu'on comprend, donc du côté de la grand-mère. Et du côté de la petite-fille, eh bien, on est dans l'entrée vers, justement, la construction d'une relation amoureuse, vers un premier ménage commun qu'on s'offre dans un appartement avec les aléas que ça peut engendrer, puisque bien, c'est des nouveaux repères, dans le fond, qu'on développe dans un couple, dans une dynamique comme celui-là. Et donc, c'est les deux personnages qu'on retrouve et c'est leurs réflexions au départ qui sont mises de l'avant. Des réflexions sur les relations, des réflexions sur l'amour, des réflexions sur le quotidien, des réflexions sur l'intimité. On découvre évidemment en creusant que Suzette n'a pas été amoureuse que de son mari. Quand elle avait 23 ans, elle avait rencontré Francesco. Il ne s'était jamais vraiment rien passé entre eux, mais il y a quelque chose là-dedans qui va donner l'idée à Noémie, dans le fond, d'essayer de le retrouver. Et donc, va s'engendrer un peu dans la deuxième portion de l'album, un périple entre la grand-mère et sa petite-fille, mais qui ont une relation très mère-fille aussi assez marquée. Il faut dire qu'on comprend aussi au fil du récit que Suzette a élevé donc Noémie. Et donc, ils vont se diriger vers l'Italie en mode un peu road movie, si on peut dire, vers Portofino, sur la côte génoise. Alors, donc, j'en dis pas plus sur l'histoire parce qu'évidemment, vous comprendrez que ce deuxième volet-là, il se passe beaucoup d'éléments cruciaux, marquants, en lien avec les thématiques et les éléments qui ont été placés dans le premier, dans la première partie. Et vraiment, ben, donc, avec l'espace dont il s'est doté en termes de planches, ben, Fabien Toulmé a vraiment l'occasion dans ce récit de construire des personnages. Donc, le récit est d'abord et avant tout relationnel sur l'évolution de ces personnages-là, sur ce qu'ils s'apportent en termes de réflexion aussi par rapport à leur situation commune, ce qu'ils vont traverser aussi au fil du récit, dans les dynamiques, dans les rencontres et le reste. Donc, il y a vraiment une belle, belle richesse. C'est difficile de rester indifférent par rapport à une BD comme ça. Visuellement, ça se fait quand même un peu plus discret. On sent que l'emphase, un peu comme dans les autres albums de Toulmé d'ailleurs, eh bien, donc c'est d'abord et avant tout sur le dialogue, d'abord et avant tout sur le personnage. Le dessin n'enlève rien à ce récit et accomplit son rôle de se mettre justement au service de ces relations-là, au service de cette histoire-là, avec un certain réalisme, mais sans trop, avec des tonalités, dans le fond, qui nous insère dans la certaine chaleur, dans un certain climat qu'on va retrouver dans ces environnements-là. Donc, avec également donc, des tonalités là, qui nous permettent de distinguer si on est dans le présent, si on est dans le flashback, etc., etc. Donc, ça fonctionne bien d'un plan visuel, ça reste clair, le récit lui-même reste clair, l'évolution est intéressante, le sujet abordé est intéressant, donc ça fait quand même quelque chose d'intéressant, au bout du compte, pour reprendre ce terme-là. Pas nécessairement une BD que je vous dirais qui est incontournable dans la sélection 2021, mais quand même, de mon côté, ça a été un beau moment que j'ai passé en compagnie de ces deux personnages-là et de voir un peu leur relation au pluriel évoluer, progresser, se transformer, et qui, au bout du compte, reconfirme que j'aime bien, au final, Fabien Toulmé. Alors voilà, je rappelle donc que l'album s'appelle Suzette ou Le Grand Amour. C'est du côté de Delcourt et c'est sorti un peu plus tôt cette année. Et bien voilà ce qui termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine.